Vous préférez celui-là que celui-là ?
Non, c'est que le soleil va tourner. Mais je tournerai avec le soleil. Je préfère celui-là. Mais...
Ben, bien sûr.
Ouais.
Ce matin, j'étais là, à 7h15, dans la... Le ciel était noir. Il y avait trois épaisseurs de nuages, très épais sur toute la surface. Et le soleil était en train de se lever. Alors, c'est pas possible. On va quand même pas... Alors, j'ai fait ce que vous faites, vous, forcément. J'ai mobilisé... en les revêtant et en leur donnant à chacun les armes à énergie dirigée, pneumato surnaturel. Répétez, les armes à énergie dirigée, pneumato surnaturel. Aux enfants, aux 51 milliards d'enfants que nous avons baptisés depuis 19 ans. Ils sont 55 milliards, ils sont aptes à utiliser ces armes parce qu'ils ont été baptisés alors qu'ils étaient encore dans le corps et que leurs cellules staminales sont encore présentes. Donc ils sont aptes à utiliser matériellement, avec efficacité matérielle, toutes les armes qu'on leur donne, les armes psychotroniques, les armes morales, et puis les armes à énergie libre, pneumato surnaturel. Alors, j'étais là, et vous savez comment on fait, hein. Écoutez, vous voulez 51 milliards en avant. Hein. Je ne veux pas de ces nuages. C'est pas compliqué, très simple. Alors vous y allez. Wow. Comme ça, on fait comme ça. 1, 2, 3, comme une étoile. Et wow, allez-y, percez-moi ça. Réduisant poussière ces nuages. Encore. 3 fois. 2, 3, 100 fois, on a fait ça. Et voilà. Si jamais vous voyez un avion qui démarre là-bas de Lyon par là, hop, il fait sa traînée. Si c'est une traînée normale, hein, au bout de tout, au bout de là, c'est ça là, il n'y a plus rien derrière. Mais si il appuie sur un petit bouton pour empoisonner le monde, hein, avec des virus, avec des protéines. Etc., tout ce que vous voulez, spike ou autre, ça, vous n'êtes pas d'accord. Et donc, l'avion il dit, ah tiens, dis donc, tiens, voilà, il est là, vous voyez, le point est là, par exemple, il fait une traînée qui va devenir grosse comme ça, puis sinon comme ça, et ça va nous faire. Arme psychotronique et arme à énergie. Dirigé pneumato surnaturel. Est-ce que vous voulez apprendre? C'est très simple. Vous visez le cockpit de l'avion là-bas. Toc, 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 et hop, et sur la tête du mec qui fait ça. Et sur ses circuits électroniques de l'avion. Et en avant de lui. Et qu'il arrête ça immédiatement. Tu arrêtes ça immédiatement. Eh bien, depuis le temps que je fais ça, à chaque fois que je fais ça, à chaque fois que je le fais, je dis bien, à chaque fois, la traînée s'arrête.
Ah, ma énergie pneumato surnaturelle.
C'est la première fois que vous entendez parler de l'énergie. Dirigé pneumato surnaturel. Lorsqu'il y a eu les tours jumelles aux États-Unis, qui soi-disant se sont effondrées à cause de l'incendie, ils ont utilisé des armes à énergie dirigée. Les armes à énergie, ça existe. Parce que quand on regarde toujours les photos, les films, ou l'avion qui traverse les tours jumelles, etc., si vous le preniez de l'autre côté, on verra et on voit très 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 bien que c'est pas le feu qui fait la fumée. C'est les armes que ça a utilisées à énergie dirigée, qui ont pour effet de réduire en poussière tout ce qui touche. C'est pour ça que quand elles sont effondrées, les tours, au lieu de faire 5 millions de tonnes par terre, il n'y avait rien par terre, au contraire, il y a un trou. Rien. Tout était tombé en poussière. Et cette poussière, c'était de la fumée. Et c'est les armes psychotroniques qui ont fait ça.
On n'a jamais retrouvé des cadavres.
On n'a jamais.
Il n'y a pas de cadavres qu'on n'a jamais retrouvé.
C'est les armes à énergie dirigée ont pour but, si tu tires avec ça, voilà, si tu balances un truc, voilà. Un truc énorme, un avion par exemple, tu peux prendre un avion, il est tombé en poussière. Avec tous ses passagers. On sait très très bien faire ça. Ben nous, on sait très bien faire ça aussi, mais à énergie dirigée, pneumato-surnaturelle, d'accord ? Voilà. C'est pas compliqué, vous allez apprendre, hein, d'accord ? Vous allez apprendre. Ils n'ont pas à empoisonner, ils sont coupables quand même, ils savent ce qu'ils font quand même quand ils appuient sur leur circuit électronique, que leur avion balance des tonnes et des tonnes de virus. Des tonnes et des tonnes d'aluminium, de protéines spike et compagnie. Ils savent que c'est des criminels. Donc on peut leur balancer ça sur la figure. Vous inquiétez pas, quand ils sont éventrés comme ça, ils arrêtent tout de suite. Tout de suite, ils appuient sur le bouton, ça s'arrête. Et puis ils continuent. Bon, si vous n'avez pas compris, tant pis pour vous.
C'est juste l'étoile dont vous parlez au début.
Pardon ?
Juste le geste pour faire quelque chose de correct.
Non, c'est une croix comme ça. Vous faites une étoile. Oui. Une croix comme ça, une étoile et...
Ah, c'est pas mal. Une croix, c'est possible. Ouais.
C'est comme quand la prière d'autorité, vous éventrez les quatre ventricules. Hein,
avec une croix.
Les quatre ventricules de noirceur pour éventrer les quatre ventricules de noirceur. Pornéas, phonon, clématon et pharmakeion. Et vous faut recommencer pour séparer ces quatre ventricules les uns des autres. Hop, vous rebalancez en cours encore un truc pour que leurs pieds puissent plus courir. Et puis vous rebalancez pour qu'ils soient vraiment séparés entre eux. Et puis enfin, vous prenez les gens connus qui font partie de Bill Gates. Allez, et vous balancez ça pour que ça lui arrive au milieu de la tête. Bernard-Henri Lévy.
Ah oui.
Ça c'est phonon, ça. Voilà. Bill Gates, ça c'est pharmakeion. Netanyahu. Etc. Faites comme ça, c'est très simple. Vous faites ça avec l'archange Saint-Michel, Raphaël et Gabriel. Et avec le glaive. Bon, ça va, fin d'explication. Alors, une petite lecture, en ce moment, nous lisons Marthe Robin. Marthe Robin, elle explique ce que Jésus vit pendant sa passion, pendant sa vie, puisque elle vit ces choses-là avec lui, et c'est très beau, c'est très grand. Moi, quand je lis ça, je suis dans un autre univers. J'en ai pour 3 heures après de commotion. Si vous ne savez pas quoi, quand vous vous embêtez, vous lisez ça. Vous ne risquez pas de vous embêter en le lisant, de toute façon. Alors, ça vous va ? On va essayer de lire ça. Allez, en avant, vous allez voir, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous savez, je suis très sensible à cette parole que mon frère Bruno, à sa mort, a prononcée. Puisqu'il est mort le 21 juin. 21 juin, c'était un vendredi. Le samedi, qui n'était toujours pas mort, puisque son corps était encore vivant à l'intérieur de son âme, et réciproquement. Et c'est le dimanche soir seulement, ça y est, il a quitté son corps. Sa mort réelle a eu lieu le dimanche, à 17h. Mais avant sa mort réelle, le 23, il y a quelqu'un que nous connaissons bien, qui était avec nous d'ailleurs la semaine dernière pour le colloque 24-25, qui l'a vu, enfin qui l'a incarné, disons pour ça. Et il a dit: j'ai soif. Et quand vous lisez les oraisons de Sainte Brigitte, vous voyez, je vois Marthe Robin dit pareil: j'ai soif. Il a soif parce que sa langue est complètement sèche, son palais aussi, presque rigide et brûlant. Il a soif du salut du monde entier. Et Bruno, avant de mourir, il a proféré cette parole en disant: j'ai soif. J'ai dit à ses enfants: écoutez, quand même, vous n'auriez pas pu mettre un petit peu d'eau sur sa bouche. Procurez-vous quand même, chez vous, à la maison, une espèce de... Vous savez, ces bombes là, pour rafraîchir, pour humecter la bouche des gens quand ils sont assoiffés. Marthe Robin, ils passaient leur temps à humecter sa bouche qui était sèche comme du feu. Quand quelqu'un meurt, vous le gardez chez vous, mais mettez de l'eau. Ne soyez pas cruel. Ne pas faire ça, c'est inouï. Ah. Jésus, alors on va lire ce passage, c'est vrai. Et puis un petit peu chaque jour. Comme ça, ça vous donnera envie de... d'acheter un truc, c'est récent, hein. C'est pas depuis longtemps qu'on a accès à ça.
Quoi pour l'édition ?
Édition Foyer de Charité. Châteauneuf de Galore. Imprimé par Chirac. Et là, je suis en train de lire pour vous, hein, les sept paroles du Christ en croix. C'est très très beau, c'est très fort. C'est très fort. Ma femme, voilà ton fils. Voici ta mère. Tu seras aujourd'hui avec moi au paradis. Oh mon Dieu, pourquoi? Eli, Eli, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la nuit s'est faite. Ouais, je vais lire à partir de là. On va aboutir à j'ai soif. La nuit s'est faite, vous savez. À un moment donné, la lune est venue sur le soleil, venant du mont des Oliviers, Il s'est collé sur le soleil, il a fait nuit sur toute la terre. Les ténèbres étaient extrêmes. Et la colère et l'indignation gagnaient tout le cœur. Une foule nombreuse se rassembla autour du palais de Pilate à la grande terreur et stupéfaction de celui-ci. Et là où la foule avait crié si odieusement le matin, « Faites-le mourir, crucifiez-le !» Maintenant elle criait avec menace, « Abattez le juge unique et sans cœur !» L'excitation était telle que Pilate fut obligé de faire mettre des gardes autour de sa demeure pour éviter l'invasion. Il était dans la plus grande inquiétude et tremblait jusque chez lui, où il s'était enfermé, ne se sentant pas du tout en sûreté avec la foule. Le mari de Véronique, dont le vrai nom est Séraphia, son mari s'appelait Sadoc, qui le matin même était entré au prétoire et avait hautement proclamé devant tous l'innocence de Jésus, était là encore, non moins menaçant, et parlait si violemment devant la grande entrée du palais de Pilate et proférait de telles menaces contre lui que Pilate fut sur le point de le faire enfermer. Ce misérable sans âme ne cessait de rejeter tout le poids de la faute sur les princes des prêtres et sur les juifs qu'il accusait d'avoir fait condamner le Sauveur, disant qu'il n'était pour rien dans tout ceci, répétant que Jésus était leur prophète et non le sien, et que c'était eux qui avaient voulu et demandé sa mort avec tout le peuple. Dans son dédain, dans son orgueil et la honte qui le poursuivait, il oubliait que ce supplice infâme qu'il proclame n'avoir pas voulu, c'est quand même lui qui l'a commandé. La terreur et l'angoisse étaient aussi extrêmes dans le parvis du temple, où on continuait les immolations de l'agneau de Pâques. On continuait ces immolations au moment où la nuit survint tout à coup. Un trouble affreux régnait dans tous les cœurs. L'épouvante éclatait de toutes parts en mouvements de stupeur et en cris de terreur et douloureux. Les princes des prêtres, point du tout rassurés eux-mêmes, s'efforçaient malgré tout de maintenir l'ordre et de ramener le calme parmi les assistants. L'intérieur du temple était tellement sombre qu'on dut allumer toutes les lampes en vue de ramener un peu de calme et d'apaiser l'assistance subjuguée de terreur et très violemment agitée. Mais ce fut en vain, le désordre augmentait de plus en plus et chacun s'interpellait du bout du temple à un autre. Le grand prêtre Anne, si enflé de son importance quelques heures avant devant Jésus, était en proie à une terreur folle, courait comme un insensé de haut en bas du temple, cherchant un abri pour se cacher. Pendant ce temps, au Golgotha, les ténèbres produisirent également une très vive impression, et pendant que le peuple tremblait et gémissait lamentablement sur tout ce qui arrivait, une troupe d'une trentaine d'hommes environ venant de Judée et des environs de Jopé passèrent à cheval pour se rendre à la fête de la Pâque. Et là, en passant, ils virent Jésus en croix, si horriblement mutilé, et les signes menaçants qui se montraient dans la nature. Ils exprimèrent à haute voix leur horreur en s'écriant « Malheur à cette ville, si le temple de Dieu ne s'y trouvait pas, on devrait la brûler pour avoir pris sur elle une telle iniquité. » Les propos de ces hommes, pour la plupart éminents, furent comme un encouragement pour le peuple et lui servirent d'exemple, faisant naître toute une explosion de murmures et de gémissements dans leurs rangs. Et beaucoup osèrent alors protester. À ce moment, la plupart des assistants se divisèrent en deux parties bien résolues. Les uns s'éloignèrent de la croix en maugréant, et les autres qui étaient un peu plus loin gardèrent le silence. Les uns pleuraient et murmuraient contre les juifs, pendant que d'autres laissaient entendre encore des injures et des malédictions en direction de Jésus avant de se retirer. Les pharisiens étaient cependant un peu moins arrogants qu'au début et avaient passablement rabattu le superbe, comme ils craignaient une insurrection populaire et qu'un grand trouble régnait dans Jérusalem. Ils s'abouchèrent avec le centurion dont le nom était Abenada, un arabe qui avait pour suppléant Longin un français. C'est Marthe qui dit ça. Le suppliant de demander de nouvelles troupes à Pilate et au tétrarque Hérode. Des ordres furent ainsi envoyés à la porte la plus voisine de la ville pour demander qu'on la ferme et qu'on interdise toute communication avec l'extérieur. Pendant ce temps, le centurion Abenadar s'évertuait à maintenir l'ordre autour du calvaire, dont chacun, à l'exception de Marie et des fidèles amis de Jésus, s'était un peu éloigné, en proie à une insurmontable inquiétude, pendant que Jésus, la douce et divine victime, restait absorbé dans le sentiment profond de son offrande et de son délaissement. Ses yeux étaient tournés vers le Père. Jésus le priait avec amour pour toute l'humanité et pour ses plus féroces ennemis. Il priait comme il avait toujours prié dans sa divine agonie et durant toute sa douloureuse passion, répétant toujours les mêmes paroles ou des passages des psaumes qui trouvaient maintenant, en cet instant, leur parfait accomplissement. Eh bien, c'est à ce moment si humain et si divin à la fois que Jésus, notre roi et notre adorable sauveur d'amour, nous obtint dans l'immolation de tout son être humain et divin et l'offrant au Père de son sacrifice suprême, la force, mais surtout la grâce inouïe de résister et de dépasser dans l'amour les plus extrêmes terreurs du délaissement moral et surnaturel lorsque tous nos rapports extérieurs avec nos frères, avec le monde, avec cette terre, avec l'existence d'ici-bas vont cesser pour nous. Et que, en même temps, les perspectives que cette vie nous ouvre sur une autre vie éternelle et sans fin se dérobent encore à nos regards. Jésus, en cet instant, acquis pour nous les mérites ineffables et infinis de la confiance aimante et du total abandon dans la lutte suprême du délaissement absolu de Dieu et des hommes. Oui, c'est à ce moment salutaire et divin que Jésus offrit d'une offrande totale sa pauvreté, son dénuement, son suprême abandon, son délaissement absolu et ses souffrances infinies, et aussi celle de sa mère immaculée, la douleur de leur séparation mutuelle et sa mort à lui, sa belle mort d'amour, épuisant toutes ses puissances à attirer à lui, jusqu'à lui, les âmes de tous les prédestinés à l'amour et à la vie éternelle, comme il l'avait annoncé. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi et en lui et pour nous. Il a porté au Père, à Dieu, le monde tout entier purifié, lavé de son sang rédempteur et divin. Voilà pourquoi l'âme unie au Christ, l'âme qui vit de sa vie et de l'amour du Christ et de sa divine mère au cœur même de la Trinité adorable, et dans le sein de l'Église catholique, doit être une âme de foi, de lumière et de charité dans toutes les épreuves de cette vie, même à l'heure suprême et décisive de la mort, quand tout paraît s'obscurcir autour d'elle, que toute consolation, que tout secours disparaît, puisqu'elle est l'enfant aimé du Père et qu'elle est avec Jésus, unie à Jésus, avec sa tendre Mère du Ciel. Eh bien, nous n'avons plus désormais à descendre seuls, sans protecteur et sans amis, dans l'affreux désert de la nuit intérieure. Maintenant que le Christ a jeté dans cet abîme infini du délaissement, de l'indifférence et de l'oubli, son propre délaissement intérieur et extérieur sur la croix, afin qu'aucun d'entre nous ne puisse, afin qu'aucun d'entre nous ne soit laissé seul et isolé dans les durs affres de la mort, dans l'obscurcissement de toute consolation, quand tout nous abandonne. C'est extraordinairement joli, ça c'est Marthe, ça, tout craché. Dans l'affreux désert de la nuit intérieure, nous n'avons plus à descendre de seul, aucun d'entre nous, sans protecteur et sans ami. Puisque le Christ, là, a jeté dans cet abîme infini du délaissement, de l'indifférence et de l'oubli, son propre délaissement intérieur et extérieur sur la croix, afin de ne pas nous laisser seuls, isolés, dans les dures affres de la mort, dans l'obscurcissement de toute consolation, quand tout nous abandonne sans exception. Il n'y a vraiment plus maintenant, pour les enfants du bon Dieu, de solitude, de terreur, d'abandon, de désespoir possible durant la vie et dans les approches de la mort, puisque Jésus, leur Rédempteur à tous, Jésus, leur amour, Jésus, leur Dieu, Jésus, leur frère, Jésus, la voie, la vérité, la vie, Jésus, la lumière du monde et la suprême joie des âmes, a descendu jusqu'aux confins des siècles ce sombre chemin, en y jetant et en y répandant toute grâce et toute bénédiction, toute paix, toute consolation, tout amour pour chacun et pour tous. Eh bien, s'il a voulu apporter sa croix dans ce désert affreux des solitudes intérieures, c'est en vue de nous apprendre et de nous aider à accomplir en nous tous l'unité dans la charité par l'amour filial, la vérité dans l'amour, la pauvreté, le détachement de tout ce qui n'est pas lui et lui seul, en nous et pour nous. Parce que nous ne pouvons triompher et sortir victorieux de l'épreuve suprême qu'en unissant tous nos délaissements aux mérites infinis des délaissements divins de notre Seigneur de son abandon sur la croix. Et tout en lui et de lui est pure révélation et divine manifestation d'amour pour son Père, dans leur gloire infinie, et pour les âmes qu'il unit à lui et qu'il sanctifie sans cesse. Laissé sans soutien, sans secours du Père, et presque sans amis, réduit au dernier degré de l'abandon et de la souffrance, Jésus s'offrit là, comme seul sait et peut le faire la mort, et il offrit sa très sainte mère avec lui, et il fit de son délaissement même un trésor inépuisable pour tous. Parce que, il s'offrit lui-même et toute sa vie avec ses peines, ses travaux, ses fatigues, ses douleurs infinies et dans le sentiment douloureux de toutes nos humaines ingratitudes envers lui, Dieu créateur de toutes choses et rédempteur de tous. Il fit en quelque sorte à ce moment son testament devant Dieu. Et il donna tous ses biens, tout ce qu'il possédait, tous ses mérites, à son Église et aux pécheurs qui étaient venus sauver. Il n'en oublia pas un seul, ni du passé, ni du présent, ni de l'avenir. Il fut pour tous et pour chacun en particulier, dans son abandon de Gethsémani et de la croix, comme dans ses joies divines et dans son amour infini, et il promit à tous sa fidélité jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation des siècles. Ainsi, tous les biens qu'il possédait comme Dieu et comme homme, sa vie, ses labeurs, ses œuvres, sa passion et sa mort d'amour, Jésus a tout abandonné à l'humanité qui peut s'en servir en toute confiance et amour comme un bien qui lui appartient entièrement à elle. Oh mon Jésus! Comme on réalise mal votre divine passion. On la voit de trop loin, de trop haut surtout. On ne la comprend pas. On a peur de savoir, de connaître vos infinies souffrances. On a peur aussi d'en parler. Seigneur, donnez-nous à tous et à chacun le sentiment profond de votre passion d'amour. Donnez-nous la douceur de l'aimer, de la pénétrer jusqu'au fond, jusqu'au centre intime de votre cœur si aimant, jusqu'à l'intime de votre âme divine, jusqu'à l'intime de votre être. Donnez-nous de connaître le fond illimité de toutes vos souffrances, après la connaissance desquelles on ne peut plus savoir autre chose ici-bas, si ce n'est de vous aimer, oh vous, mon divin Jésus, et d'accomplir avec vous, unis à vous et à Marie, la volonté du Père jusqu'à la mort et la mort de la croix. Eh bien, Jésus, en cet instant, pria aussi pour les hérétiques qui prétendent et qui disent que parce qu'il était Dieu, il n'a pas senti les douleurs de sa passion. Et qu'à cause de cela, il n'a pas pu souffrir ce que souffrirait un homme ordinaire livré au même terrible tourment, ce qui est exactement le contraire. Lui qui, depuis le premier instant de son incarnation dans le sein virginal de Marie, ne vivait que par la croix, qu'avec les tourments infiniment insondables de la croix, que en croix et uniquement dans l'amour de la croix, et dans le supplice de laquelle il serait un jour livré pour nous par amour. Et cela que je viens de dire, je crois pouvoir en témoigner véritablement moi-même, qui en union avec Marie, ma mère bien-aimée, a été donné de vivre continuellement et sans cesse dans la plus grande, la plus profonde et la plus riche intimité avec lui et le Père, le Saint, dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire dans sa prière, dans son adoration, dans sa louange, dans son offrande, dans son amour, participant moi-même à toutes ses peines, souffrances, angoisses et douleurs. Et je puis même dire à sa suprême agonie et à sa mort. Il m'a été donné de vivre ça continuellement, comme lui et avec lui. Oui, Jésus, je peux vous le dire, a ressenti en lui-même la cruelle souffrance du délaissement, de l'abandon, de l'indifférence et de l'oubli infiniment plus douloureusement que ne pourrait en souffrir un homme ordinaire, parce qu'il était infiniment plus sensible et plus délicat que personne au monde, infiniment plus vulnérable, et qu'il était intimement uni à la divinité, qu'il était vrai Dieu et vrai homme, et que dans le sentiment profond de son humanité, abandonné de Dieu, abandonné des hommes, il vida comme homme-Dieu dans toute son immense étendue et sa plénitude infinie le calice amer du délaissement et de l'humaine ingratitude en des souffrances d'une profondeur inouïe, sans limite et sans fin. Ça va écrire. Vous entendez la voix de Marthe. Vous ne pouvez plus jamais l'oublier. Plus jamais. La divine sensibilité du Christ surpassait à l'infini tout ce que l'on pourrait en dire et imaginer. C'est pourquoi, nous aimant d'un amour qui dépassait toutes les limites de la raison, toutes les bornes de ce que nous pouvons en penser, d'un amour sans mesure, son cœur adorable, son cœur si divinement aimant et chargé de tendresse, fut douloureusement broyé et se contracta cruellement devant nos froideurs effrayantes, nos ingratitudes et notre misérable indifférence envers lui, qui a tout donné et s'est donné lui-même pour nous. Qu'y a-t-il en effet pour un cœur brûlant et dévoré d'amour de plus cruel et de plus amer que l'indifférence qui n'est pas moins coupable et injurieuse que le mépris et la haine? Ce fut elle qui broya son cœur au jardin de Gethsémani et lui fit répandre une sueur de sang comme des cailloux qui se sont plongés dans la terre pour y disparaître. C'est elle, et encore et toujours, qui le broie et en fait tous les jours jaillir l'eau et le sang. Ah, mon Jésus, que de secrets restent donc cachés en votre vie d'amour et de souffrance. Saint Jean le déclare d'ailleurs en termes des plus poignants. Il fallait que ce fût vraiment l'amour du cœur de Dieu pour que mépris, trahison, indifférence, oubli, délaissement, abandon ne se transforme pas en colère impitoyable, en un refus total de pardon. Mais non, loin de se dérober, loin de nous abandonner à notre perte et à notre perdition, son amour a consommé tous les excès. Depuis l'arrestation au jardin des Oliviers, où il fut trahi par le baiser menteur d'un ami, jusqu'au dernier soupir du Golgotha qu'il rend à Dieu sous les yeux de sa mère en pleurs. Jésus a mis sa confiance en Dieu, avaient dit les scribes et les princes des prêtres en se moquant de lui. Que Dieu le sauve maintenant, s'il l'aime. Ces paroles tirées du psaume 21, qui à leurs yeux prouvaient le reniement du crucifié par celui qu'il avait toujours appelé son Père, Jésus semblait à cette heure, comme à son insu, les confirmer. Et oui, voici, il cria « Eli, Eli, lama sabachthani ?» mon Dieu, pourquoi ma faim fausse abandonnée ?» Cette dernière parole extraite d'un psaume dans lequel, 1000 ans d'avance, David avait décrit la passion du Messie, s'exprimait à la fois dans l'horreur de son abandon et la puissance de son divin attachement au Père. Quel mystère effrayant s'agitait dans l'âme du Christ, qui se voyait maintenant fait malédiction devant son Père, à cause des péchés dont il s'était chargé par amour. Ce cri de suprême désolation, de quel glaive atroce il transperça également son cœur, et le cœur si pur et si aimant de Marie, sa mère, qui à ce moment pria le Père d'abréger cette épreuve intolérable, même pour le corps et le cœur d'un homme Dieu. Eh bien, lorsque le cri de notre Seigneur interrompit l'amer silence qui régnait depuis quelques instants autour de la croix, les insulteurs à ses douleurs se tournèrent à nouveau vers Jésus. Et l'un d'eux dit alors, « Il appelle Élie. Voyons si Élie viendra le délivrer, » disait un autre. Mais Marie, elle, à ce cri de son fils, se rapprocha encore plus près de la croix, ainsi que Jean, pour leur réconforter au moins par leur présence. C'est à ce moment, c'est-à-dire un peu avant 3 heures, que la lumière commençait à revenir sur la terre et que la lune commença à s'éloigner du soleil dans la direction de Bethléem. On aurait dit un moment que la lune allait se poser sur la terre, tant elle était proche de la terre. Le soleil reparut alors, d'abord dépouillé de tout éclat et entouré d'une vapeur rougeâtre, et recommença lentement à lancer ses rayons sur la terre, et bientôt on ne vit plus les étoiles de la nuit, bien que le ciel était resté très sombre. Les persécuteurs de Jésus reprirent à cette occasion leur arrogance à mesure que la lumière reparaissait à l'horizon. Mais le chef des soldats romains, Benada, dont les sentiments s'amélioraient peu à peu, enjoignit à tous l'ordre de se taire. Tous les monstres de l'enfer déchaînés contre Jésus, notre divin sauveur, étaient vaincus les uns après les autres et fuyaient maintenant du calvaire avec des cris d'épouvante et de terreur en se voyant entièrement battus. Oui, venons à l'école de Jésus, apprenons de lui comment aimer le bon Dieu et nos frères en ce monde, comment être doux et humble de cœur dans l'épreuve et dans la souffrance, afin d'être à notre tour un rayonnement de sa charité et de son amour envers tous, pour être un jour dans le ciel un rayonnement de sa gloire au milieu de tous les élus de l'amour. Pensons, lorsque nous sommes éprouvés par la solitude, par l'abandon de Dieu et de nos frères, ce vide affreux du cœur, quand nous sommes éprouvés par la fuite ou la trahison de nos amis, nos meilleurs intimes, et que nos ennemis se réjouissent de nos douleurs, quand la souffrance et la douleur nous étreignent l'âme et le cœur, que les terreurs de Gethsémani nous broient, que la nuit du Golgotha semble nous écraser, et que la maladie accable notre corps, quand la monstrueuse ingratitude de tous révolte notre être. Pensons au pardon et à la miséricorde infinie de Jésus sur sa croix. Et pardonnons nous-mêmes à tous, et complètement, et jusqu'à la racine de tout et du fond du cœur. Unissons-nous à Jésus dans cet instant de sa passion. Et nous garderons à l'égard de tous des sentiments très purs. Et nous jouirons de l'immense joie du pardon qui convient aux véritables enfants de bon Dieu. Oh, mon Jésus, c'en est trop. Votre Père lui-même ne vous connaît plus. Lui, l'infinie sainteté, et vous, vous êtes fait notre péché. D'un côté, vous vous élancez vers lui avec un désir infini, et d'un autre côté, vous ne voulez pas nous abandonner. Père, pardonne-leur. Pardonnez aux pécheurs. Vous lui criez ce cri pour nous tous. Et en même temps, Père, pourquoi me repoussez-vous? Ah, mon Jésus, c'en est trop. Le combat de l'amour vous a tué. Tout est consommé. Bientôt, mon Jésus, ce sera fini. Pour nous, par amour, vous allez mourir. Il était 3 heures environ. Un grand silence de mort régnait autour de la croix. Je voyais le corps divin du Sauveur devenu livide et épuisé de vie. Il était blanc comme de la nacre, ou plutôt comme une hostie qu'il était. Jésus dit encore, mais je ne peux pas vous dire si ces dernières paroles furent prononcées tout haut ou si elles ne furent dites qu'intérieurement. Comme tant d'autres que j'ai connus de la même manière. Il dit encore, j'ai été pressé comme le grain de froment sous la meule, comme le raisin qui a été foulé ici pour la première fois. J'ai donné tout mon sang jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à ce que mon corps en soit entièrement vidé. J'ai eu plusieurs fois la connaissance de ces paroles, mais je ne crois pas que je saurais en expliquer la teneur. En tout cas, Jésus était là, maintenant, sans aucune force physique, pratiquement sans vie. Son corps divin avait déjà l'inertie, la rigidité d'un cadavre. Les douleurs atroces de la mise en croix et le sang qu'il avait répandu depuis lors avait achevé d'épuiser sa résistance physique. Et voilà pourquoi je vous ai lu ces passages. C'est pour ce qui vient maintenant. Sa langue était horriblement desséchée et collée à son palais. J'ai soif, murmura-t-il péniblement. Et en disant cela, son regard paraissait mesurer l'infini. Ce qui mit le comble aux douleurs de Marie, ce fut son impuissance à le soulager dans ce qu'il demandait. Pauvre mère, on ne lui a même pas laissé le droit de rafraîchir ses lèvres brûlantes. Ces bourreaux ont bu eux-mêmes le vin aromatisé de Véronique qu'ils ont refusé de lui donner. Elle n'a pas même eu le droit d'essuyer le sang qui coulait de ses plaies. On l'a fait reculer chaque fois qu'elle approchait tout près de la croix. Qui dira le martyre de cette douce et tendre mère qui voit agoniser son enfant bien-aimé sans pouvoir le secourir? Autrefois, lorsque petit enfant il éprouvait sa soif, avec quel amour et quel maternel empressement elle lui donnait à boire. Maintenant, elle se trouve impuissante à le soulager. Comme elle le regardait, ainsi que ses amis, avec une grande tristesse, sans pouvoir, ou plutôt sans savoir comment lui porter secours, Jésus leur dit, vous auriez pu me donner un peu d'eau pendant les ténèbres qui vous en auraient empêché. Jean fut troublé et vivement bouleversé à ce reproche de son maître. Il ressentit une immense peine d'un pareil oubli de son cœur. Jésus dit encore, mes proches aussi devaient m'oublier et ne pas me donner à boire, afin que tout ce qui a été écrit de moi soit accompli. Cette parole de désir, j'ai soif, écrite aussi dans le même psaume que la précédente, ne traduisait assurément pas la soif physique, mais surtout et par-dessus tout, la soif divine des âmes qui dévorait son cœur, divinement passionné d'amour pour tous les hommes, ses frères qu'il sauvait à si grand prix de péché. Mais Dieu le Père, qui avait vu la souffrance de Marie au reproche de son fils, et qui avait entendu sa prière, en eut compassion aussitôt. Il suggéra au commandant Abenada, qui avait déjà le cœur touché par la grâce, de présenter aux lèvres du divin mourant une éponge imbibée de vinaigre et d'eau. C'est alors qu'un soldat, plus rapide que lui, saisissant une éponge, la trempa dans du vinaigre et par une dernière dérision suscitée ou pas, l'arrosa d'un fiel et allait ainsi le présenter au Seigneur. Un fiel d'une amertume insupportable. Indigné de ce procédé inique, le commandant Abenada arracha violemment l'éponge des mains du mauvais soldat. Avec de très dures paroles, il la pressa soigneusement pour en faire sortir tout le liquide amer. La lava vivement, y versa dessus du vinaigre mêlé d'eau, puis l'adaptant au bout d'une branche d'hysope, il l'assujettit au bout de sa lance et l'éleva jusqu'à la hauteur du divin visage de Jésus. Et Jésus aspira avidement un peu du liquide acidulé en remerciant l'officier de son regard doux et bon, ce qui acheva de convaincre ce dernier. La très sainte Vierge comprenait parfaitement que son fils bien-aimé était dévoré d'une autre soif que celle dont on pouvait le soulager, d'une soif incomparablement plus torturante encore et plus inapaisable que la soif physique dont il semblait se plaindre par ses paroles. La divine soif des âmes qui, à cette heure et dans la suite des siècles, se refuserait à son amour, pendant que du haut de la croix, il lavait tous les péchés dans son sang rédempteur. Il avait soif de laver tous les péchés de l'humanité en les expiant tous par des ses souffrances infinies. Dans le sacrifice suprême de sa vie, par un grand don d'amour qu'il fait au Père en faveur de chacun, et exclusivement chacun, pour elle-même. Il est l'agneau rédempteur qui sauve le monde. Il est le divin médecin des âmes qu'il guérit de toutes leurs blessures et qu'il attire à l'amour de son cœur aimant et divin à leur Père des cieux. Et c'est cette inépuisable et inapaisable soif d'amour que Marie aurait voulu apaiser. Et c'est pourquoi elle s'unit alors, et à partir de ce jour, plus étroit, toujours plus étroitement, au sacrifice sanglant de la divine victime de la croix, pour la réalisation parfaite de leur commun désir, exprimé par cette soif inexprimable. Jésus dit peu après, comme pour donner un dernier avertissement au peuple, « Lorsque ma voix ne se fera plus entendre, c'est la bouche des morts qui parlera. » Sur ces paroles, quelques voix s'écrièrent, « Il blasphème encore !» Mais Abenadar leur ordonna de se tenir en paix. L'heure du Seigneur était arrivée. Il lutta encore un moment avec la mort. Une sueur froide se répandit alors sur toute sa personne et agita son corps d'un singulier tressaillement. Des démons nombreux tournaient encore autour de la croix, en s'agitant désespérément, sans avoir pu lui faire articuler une seule plainte contre ses ennemis. Jean, qui se trouvait tout près de la croix, voulant lui témoigner son affection, essuyait légèrement les pieds de son maître avec son suaire. Marie-Madeleine, brisée maintenant par la douleur et la fatigue, s'appuyait languissamment contre la croix de son sauveur bien-aimé. Des larmes profondes, des larmes d'âme, de vraies larmes d'amour tombaient à flots et par torrents de ses yeux sur les pieds divins de celui qu'elle aimait, ces pieds de son Jésus qui s'était tant lassé, tant meurtri, qui avait tant peiné et si longtemps à sa recherche, elle, misérable pécheresse, livrée à toutes les folies du monde et aux vaines convoitises de la chair. La Sainte Vierge, elle, restait debout et priait silencieusement en contemplant son Fils bien-aimé qui se mourait sur sa croix sans qu'elle puisse l'étreindre dans ses bras et lui parler. Le centurion Abenadar, qui était resté sur son cheval tout près de la croix depuis qu'il avait rendu l'éponge d'eau de vinaigrée au Seigneur, était profondément ébranlé et se livrait à de sérieuses réflexions. Il contemplait maintenant, sans détourner les yeux, la face auguste du Sauveur, dévisageant avec amour et un très grand respect les ravages effrayants de la couronne d'épines, ainsi que tout son corps si affreusement mutilé et tout couvert de plaies et de sang. Mais voici que cet indicible martyr faisait place en Jésus à une paix immense et suave, jetant un dernier regard sur l'ensemble de sa vie ici-bas, depuis son incarnation dans le sein immaculé de celle qui est là, généreusement debout, au pied de la croix sur laquelle il agonise, Jésus constatait, en ce moment suprême, avec une satisfaction toute d'amour, qu'il avait accompli toute la mission que lui avait confié le Père. Alors il prononça encore une dernière parole de soumission à l'adorable volonté de Dieu, et c'est à ce moment-là qu'il dit « Tout est consommé ». C'est-à-dire, toutes les Écritures sont accomplies, toute ma divine mission en ce monde est achevée, toute la volonté de Dieu réalisée. Et relevant alors un peu la tête, il s'écria d'une voix très forte, dans un acte infini d'amour, de confiance et d'abandon à la souveraine volonté du Père. « Mon Père, je remets mon âme entre vos mains. » C'est en pleine liberté, en qualité de prêtre souverain, que Jésus donne sa vie pour la rémission des péchés de l'humanité. Après quoi, il jeta un grand cri qui remplit d'étonnement les témoins de son supplice. Un cri qui pénétra toute la terre et monta jusqu'au ciel et descendit jusque dans l'enfer, sidérant les démons et faisant frissonner les captifs. Ayant poussé ce grand cri, Jésus inclina la tête et rendit l'esprit. Il était un peu plus de 3 heures. Oh, ce cri, cette voix aimée, la voix de mon Jésus, vous êtes éteinte pour nous. Voix forte, voix prenante, voix puissante, voix qui captive et qui soulève, voix qui éclaire et qui console, voix qui prévient et qui rassure, voix qui donne la paix, voix qui pardonne et qui absout. Voix qui faisait le ravissement des apôtres, l'enthousiasme et la conversion des foules. Voix qui faisait croire en Dieu. Voix qui manifeste son amour. Voix qui terrorisait et terrassait les démons. Voix qui confondait les ennemis de Dieu. Voix ravissante. Voix retentissante. Voix triomphante. Vous êtes éteinte maintenant. C'est beau, hein? C'est pas seulement beau. Seulement beau, hein. Alors, quand Bruno, c'était le dimanche 23, il s'est fait entendre par par une personne qui était là avec nous la semaine dernière. Il a dit j'ai soif. Puis son âme s'est séparée de son corps. Il était 17h. Et tu sais où est-ce qu'il est allé? La première personne qui t'avait visité, c'est le cœur qui saigne. Et depuis, il se voit tous les jours. C'est la soif qui a aidé toute sa vie à mon frère. La soif du salut de tous les hommes. C'était son tourment depuis la conception. Passe devant nous, hein. C'est le premier. Hein. C'est le premier qui passe devant nous. Dans le sein des saints ouverts, la paternité assoiffée du Père, de tous les délices qu'il doit avoir dans la Jérusalem nouvelle. C'est le premier. Alors, l'année dernière, il était là, à votre place. le synode de l'année dernière. Bon, eh bien écoutez, je trouve que c'est bien. On aura une petite liqueur délicieuse de Mâtre au Pain, chaque après-midi.
Je peux poser une question.
Ouais.
La nuit, on fait une prière d'autorité, vous dites pour les agonisants. Vous savez, vous avez dit, parce qu'il y a une charpe de damnation qui pèse sur eux.
Oui.
C'est ça. Alors,
c'est un jour, j'étais ici et je venais du Tarn et je suis rentré en voiture ici et j'étais en agonie. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai mis la 806 là. J'ai réussi à sortir de la voiture et en rampant, petit à petit, j'ai réussi à rentrer et à me mettre sur le lit là, qui est dans la chapelle. Et je me suis dit, là, je crois que c'est la fin. Alors j'ai téléphoné à Jean-Noël et je dis, j'ai pu téléphoner, dire au secours.
J'ai une loque.
Du coup, il a téléphoné à Minou, qu'on va voir arriver ce soir. Du coup, Minou est venue. Elle a prévenu deux ou trois amis par Lille. Et j'ai été donc là. On m'a aidé. On m'a donné à boire. Et j'ai agonisé. Voilà. J'étais dans une espèce d'agonie. Un tourment incroyable. Ça a duré jour et nuit sans s'arrêter. Et j'essayais de prier, c'était impossible. J'étais enfermé. Dans ma tête, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, j'étais complètement enfermé. Avec impossibilité de crever une chape qui était sur moi. Et tout de suite vu que cette chape, c'était celle de la damnation éternelle, la peine du dame, la peine du dame. Tu sais que tu ne pourras jamais sortir de cet enfermement qui est d'une épaisseur intransperçable. Tu fais tous les efforts, tu cherches partout à l'intérieur de toi, si dans toute ta vie tu as fait un seul acte d'amour. Et tu vois que tu n'en as fait aucun. Avec une évidence absolue. Alors tu dis, mais tu te dis, cet enfermement est inouï parce que j'avais mal, ça me brûlait les jambes, ça me bouillonnait de partout, comme du feu, tout ça. J'avais physiquement, j'étais de la douleur, hein. c'était pas drôle du tout, au point de vue souffrance physique. Mais la peine du dame donnait plus de douleur, sans comparaison, avec toutes les douleurs physiques que vous aviez. J'aurais pu brûler, c'est dans le tartare, mais la peine du dame donne plus de douleurs physiques que les souffrances de l'enfer. La peine du dame, c'est atroce. Les c'est terrible. Eh bien, ça, voilà, à un moment donné, bon, vous étiez là, par là, vous savez pas, j'essaie de sortir, de bouger de mon lit, de tomber par terre pour me ramper, me tordre par terre. De toute façon, je ne pouvais pas dormir parce que si par malheur, je sentais que si le sommeil venait, j'étais épuisé par le sommeil, c'est normal, mais si je m'endormais, je voyais que ce serait une catastrophe. Parce que si tu t'endors, c'est fini. Et donc je luttais pour ne pas m'endormir. Et j'étais pris par cette un petit témoignage que je vous fais. Hein? Vous avez déjà entendu, hein? Hein? Vous l'avez déjà entendu, ça? Je vais raconter. On ne peut pas ne pas raconter une chose pareille. Eh bien, quelqu'un a entendu quelque part, là, à 700 km d'ici, va là-bas voir le Père Patrick. Vas-y. Pris sa voiture. Elle est venue ici. Elle est rentrée. Elle est rentrée dans la chapelle. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'étais en train de me tordre par terre. Elle est venue, elle a posé sa main là, par là. Je sais pas comment vous dire, on voudrait percer ça et trouver quelqu'un qui me prenne, tende la main pour, et puis quelqu'un qui te prenne la main, qui t'aime, quoi, et qu'il y ait un acte d'amour, enfin, qui passe, pour arrêter cette peine, cette souffrance, de la damnation, la peine du dame, c'est terrible. Sa main comme ça. Sur le dos, tout ça, pendant 2 heures, à peu près, pendant 2 heures. Alors, il y a quelque chose qui est une fissure qui s'est faite dans cette espèce d'enfermement absolument intransperçable. J'ai pu me remettre sur le lit et j'ai pu dormir un peu. J'ai appris par la suite qu'il y avait un père là-bas au Caire qui s'appelait le père Henri Boulade, qui est mort il y a 2 ans. Je vois sur une vidéo, il fait un... Il y a toujours la vidéo sur YouTube. Père Boulade dit, il m'est arrivé une chose atroce. Je suis tombé, j'ai agonisé, et pendant plusieurs heures, j'étais pris par la peine, j'étais pris par un enfermement, la peine, comme s'il était damné. Au même moment que moi. Et il disait, je vous en supplie, vous tous qui m'écoutez, habituez-vous autant que vous pouvez à lever les bras pour demander à Jésus de venir vous prendre la main et vous arracher. Pour que quelqu'un vienne vous prendre la main et vous arracher. Faites ça. Habituez-vous à faire ça. Et c'est pour ça que dans la prière d'autorité de la nuit, il y a à peu près 10, 11 millions de gens qui agonisent sur la terre chaque jour. Hein. On fait cette prière. Moi, on invoque le père Henri Boulade, mais aussi Marthe. Parce que vous savez qu'elle est la parole de Marthe. Quand elle est avant et après sa mort, elle a dit, je ne veux pas aller au ciel. Je veux aller en enfer pour empêcher les gens d'y rentrer. et ceci jusqu'à la résurrection des élus. Alors on invoque Marthe, Père Henri Poulat, et puis aussi Don Gopi, puisque c'est lui qui a enseigné avec Marie, à la fin de chaque dizaine de chapelet, pour les âmes des fidèles trépassés, qu'ils reposent en paix, et puis faites miséricorde, Seigneur, aux âmes des fidèles trépassés. Hein? Alors, on invoque tous ces-là pour chacun des 10 millions de personnes qui, agonisant, se retrouvent complètement enfermées dans cet enfermement atroce, pour qu'ils aient la grâce, grâce à notre prière de la nuit, de lever la main. Et que la grâce soit donnée à que quelqu'un vienne, comme pour Gloria Apollo, il y a eu ce frère Maximum d'amour, là, qui a prié pour Gloria Apollo, et qui a pu la sortir de l'enfer. Par un amour, elle ne la connaissait pas. Il a vu dans les journaux, il est venu la sortir de l'enfer, comme cette petite qui est venue me voir ici, qui m'a sorti. Donc on prie pour que, on fait la prière antidote, pour qu'il n'y ait aucun de ces 10 millions qui agonisent aujourd'hui, qui ne soit investi de cette force pour demander, lever la main et trouver quelqu'un qui viendra les en arracher. Et c'est comme ça que nous pensons, nous croyons, que il n'y aura pas de damné jusqu'à l'heure de la résurrection de la parousie. Il n'y en aura pas. Quand je vois la différence entre la mort de mon frère et la mienne, j'ai un peu honte, mais c'est comme ça. Écoutez, nous avons la joie d'accueillir la colonne du monde nouveau et de l'Apocalypse venant directement de Notre-Dame de Paris. François Bernand, pour ceux qui ne connaissent pas, mais il était là au synode l'année dernière, pas de problème. Génial, hein, c'est merveilleux.